gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi, ami auditeur, ami auditrice, il est 22h et une petite minute et c'est l'heure du retour au direct, fin des bandes continues, et c'est donc l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches soirs, et dans les studios nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons aussi Fab autour de la table.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
Ça va à toi?
Ouais, ça va. Et nous avons aussi Marlene à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Marlene.
Et toi Clara, ça va?
Oui, moi ça va.
Moi ça va alors. Ça va.
Tu m'étonnes, c'est sa dernière émission, là, tranquille.
Avant les vacances, elle reviendra un jour.
Ah oui, rassurez-vous, Clara reviendra. La technique sera juste mauvaise quelques semaines. On rentre direct dans le vif du sujet. C'est Fab ce soir qui ouvre la danse.
Oui.
Avec un RN en tête et une gueule de bois.
C'est ça, voilà. Ça fait maintenant 2 semaines que le couperet est tombé. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci de micro, il est un peu trop haut. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. La majorité des votants penche à droite, et dans cette majorité, une majorité penche à l'extrême droite. Alors on va balayer tout de suite l'idée que c'est la faute de l'abstention, car comme je le rappelais dans la causerie 194 du 17 mars 2017, vous pourrez aller réécouter si vous avez envie, il est depuis pas mal de temps démontré que les abstentionnistes voteraient en gros comme les votants s'ils le faisaient. Donc non, inutile de se rassurer une fois de plus avec l'idée que tout viendrait de l'abstention. Voilà. Non, c'est plus complexe que ça. De la même façon, il est idiot de parler de vote de colère ou de vote sanction. D'abord parce que ça tient pas, hein, parce que dans ces élections il y avait quand même 37 autres listes que celles de Macron. Donc alors soit ils sont pas très bons au bonneto, ils sont tous tombés sur la même liste, soit ils ont un peu choisi la liste. Vous voyez, c'est un peu le truc. Mais aussi parce que les études sociologiques sur les électeurs du Rassemblement National démontrent que c'est même un des partis qui a le plus de votants dits fidèles et certains ou certaines de voter pour lui. Mais aussi que le vote Rassemblement National traverse aujourd'hui toutes les couches de la société, tous les particularismes, et qu'il s'est ancré dans la vie politique française comme un parti qui propose des vraies solutions. Voilà, là aussi ça n'a pas de quoi nous rassurer, mais il faut quand même aussi lire la sociologie faite autour des électeurs et électrices du RN, parce que c'est intéressant de voir qu'on est loin du cliché que certains dans notre camp ont tendance à dire que c'est juste des gens en colère. Voilà, c'est plus complexe que ça. Ce qui est inquiétant, hein, c'est qu'on sait qu'il faut des années pour qu'une idée disparaisse une fois qu'elle a été admise comme vraie. Il en va d'ailleurs des idées politiques comme des autres. Hein. La remise en question, ça prend du temps, ça demande un travail sur soi, et c'est assez énorme, globalement. Mmh. Tout le monde a eu à le faire au moins une fois dans sa vie. On sait tous que se défaire d'une idée préconçue qu'on peut avoir, c'est compliqué. Donc, pour le dire autrement, les soutiens du Rassemblement National et des autres forces d'extrême droite le font donc par conviction, majoritairement, dans une écrasante proportion, et ne changeront pas d'idée en claquant des doigts. Cela nous pousse à nous demander comment nous allons mener les choses pour inverser cette tendance. Soyons clairs, je sais que là, il y a très peu de chances que je m'adresse à des électeurs du Rassemblement National ou de Reconquête. Ou si c'est le cas, coupe ta radio. Là aussi, il ne faut pas rêver que la radio elle seule se suffise, même si elle a une utilité dont nous avions déjà parlé dans une émission où on avait expliqué en quoi la radio avait cette capacité de propager les idées. Voilà. Alors, je voulais quand même parler un petit peu de la gauche et des anards, qui, à mes yeux, ont un peu l'art d'avoir loupé quand même pas mal de signaux. À la causerie, on a souvent fustigé les mouvements anards ou de gauche pour leur manque d'ancrage dans la réalité. Nous sentions bien, globalement, à la causerie, que globalement, nos milieux étaient déconnectés de la société, hors sol, souvent avec à la tête des mouvements ou des partis, des gens issus de la classe moyenne haute, de la bourgeoisie des savoirs, etc., etc. Qu'au fond, de plus en plus, nos milieux avaient une position moraliste, morale, condescendante, bien souvent, plutôt que d'être dans le rapport aux autres d'égal à égal en tentant de passer des idées. Incapables souvent de comprendre, par exemple, que les campagnes étaient totalement abandonnées, que les services publics les désertaient, qu'il manquait de tout, des médecins, des infirmières, des commerces de proximité, des lieux culturels, etc. etc. Face à cela, souvent, les solutions apportées étaient très urbaines. Faut prendre les transports en commun et bien recycler ses déchets. Sauf que ça répondait pas du tout à la question, en fait. Comment ne pas comprendre que les habitants de ces zones, qui sont quand même plus d'un tiers des Français et des Françaises, voilà, ne se soient pas sentis méprisés et qu'ils ont détourné le regard des partis dits de gauche. Parce que oui, la gauche a autant abandonné les ouvriers que les paysans depuis des années. Elle s'est recentrée sur les villes, les classes moyennes qui la composent, et elle n'a pas su faire du « en même temps ». Ça, c'est une petite provocation. C'est-à-dire, en fait, maintenir la lutte des classes et élargir les revendications émancipatrices. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mener les deux. Il n'y a pas besoin de choisir. Sauf que, quand on fait de l'électoralisme, on choisit ce qui rapporte le plus de voix. C'est ça qui est un peu terrible. Elle porte en particulier, la gauche dite de gouvernement, de lourdes responsabilités dans ce qu'il arrive aujourd'hui. Croire que les électeurs ont la mémoire courte, c'est un peu facile. La loi El Khomri, la casse des retraites, la diminution des moyens d'intervention des syndicats, la casse de l'hôpital public, le renforcement des lois racistes et le fait de donner plus de moyens et moins de contrôle à la police, tout ça, ça commence sous François Hollande. Le même qui se présente aujourd'hui sous le Front Populaire 2.0 2024. Donc, il faut aussi se rappeler que les privatisations étaient les plus élevées sous Jospin, Premier ministre socialiste, que sous n'importe quel autre Premier ministre. Voilà. Donc les postures aussi virilistes et braillardes de parfois de la France insoumise, le fait de flirter avec les limites verbales en permanence, le fait que certains insoumis manient des propos proches de l'antisémitisme ou en appelant à des rhétoriques complotistes anti-juifs, ça n'aide pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde en face. C'est un peu ça l'idée. Il ne s'agit en rien pour moi de dire ici que tant pis, c'est comme ça. Voilà. Oui, je préférerais que les votants choisissent le nouveau Front Populaire 2.0 2024 ou toute autre force de gauche plutôt que d'aller voter au Rassemblement National, évidemment. Simplement, je sais que si on se passe de la critique, c'est encore un blanc-seing qui sera donné. Et si ce Front Populaire 2.0 déçoit une fois au pouvoir, il sera le tremplin qu'attend le Rassemblement National pour devenir largement majoritaire. Alors oui, on reste à la causerie, très critique et vigilante et vigilant, parce qu'on sait que le virage peut être rude. Parce qu'on voit déjà les conséquences. La montée des sorties violentes de groupes d'extrême droite augmente au rythme de la montée du RN dans les urnes ou dans les sondages. On sent bien qu'ils rongent leurs freins, là, espérant un feu vert après la victoire du Golden Boy Bardella. On sait à la causerie que quand une idée de merde arrive au pouvoir, elle y reste un moment, et elle casse un pays durablement. On sait que les femmes, les gens vus comme pas assez blancs, les minorités sexuelles seront les premières personnes à prendre des coups et à être attaquées par la loi. On le sait parce que depuis des années, et oui, des années à la causerie, on vous ramène ici des exemples de lieux où tout cela se passe. L'Inde, les USA, la Hongrie, la Russie, l'Italie, le Sénégal, la Pologne, l'Afrique du Sud, l'Argentine, etc., etc., etc. Et j'ai pas repris toutes les chroniques qu'on avait faites, mais on en a parlé souvent de ce virage-là. Et notamment, je me permets de faire cette incise qui n'était pas prévue, quand on a parlé de la Hongrie, on vous a parlé de l'effet déceptif, comme on dit, de la gauche, qui a permis à Orban de rebondir en disant « Regardez, ils n'ont pas fait ce qu'ils disaient qu'ils feraient ». Parce qu'à l'époque, en Hongrie, avant qu'Orban passe avec une majorité totale, il était passé, pas passé d'ailleurs, mais la gauche avait une majorité relative, et elle avait fait une sorte de Front Populaire 2.0 comme en France. Sauf qu'elle n'a pas fait la moitié de ce qu'elle avait promis de faire. Et du coup, 2 ans après, Orban, il est venu, il a dit « Mais regardez, faites-leur pas confiance, parce qu'ils n'ont pas fait la moitié de ce qu'ils avaient promis de faire. Donc, moi, je vous promets que je vais faire, je le ferai. » Et puis, ça a marché.
Tu vois, c'est ce que je m'étais noté, parce que je suis un impie, je regarde la télévision, et j'ai eu la chance de regarder tous les clips
de campagne.
Et il y a vraiment un truc qui m'a interpellé, c'est... Alors, le FN, tout ça, enfin le RN, pardon. Ils se sont achetés une conduite. Le RN, tout ça, bon, ok. Mais le Front de Gauche, en fait, il y a un truc qui, moi, un peu. C'est, on va, tout va changer. Mais en fait, je pense que déjà là, c'est déjà faire miroiter des choses qui ne sont pas vraies.
Ouais. Je veux dire, quand. Il n'y a rien de pire que quelqu'un de déçu.
Il n'y aura pas de majorité totale de la gauche. Enfin. C'est peu probable. On va pas dire impossible, mais on va dire c'est peu probable. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir
s'allier potentiellement.
S'allier potentiellement, etc. Donc vous ne pourrez pas faire tout ce que vous vouliez et vous ne pourrez pas tout changer. Et ça, c'est un truc. Moi, c'est vraiment un truc auquel je suis attentif, c'est les fausses promesses, quoi. En fait, il vaudrait mieux se dire. On n'y arrivera pas à tout parce que de toute façon, il faudra négocier. Mais on fera au mieux et rendez-vous en 2027 pour changer la donne, si vraiment on est dans cette démarche électorale et tout. Mais là, on s'enfonce déjà dans des promesses qui seront hyper compliquées à tenir.
On veut ramener aux urnes des gens qu'on a déçus en disant on rase gratis demain.
C'est ça.
C'est un peu le problème. Ouais. Même si, je vais être très clair, hein, le programme du Front Populaire 2.0, c'est le programme de Mitterrand
oui,
80
oui, oui.
adapté à aujourd'hui. Hein. On n'est pas sur un programme révolutionnaire, hein, faut pas non plus déconner.
Mais il a fait Mitterrand ?
Mais oui, il a déçu. Et depuis, ça monte le Rassemblement National, pas moi. Alors, nous, à la Causerie, on a quand même beaucoup parlé, et souvent, de la montée des populismes d'extrême droite, et ce, plus d'une fois, parce qu'on s'inquiétait de cette internationale des populistes. Nous avons tenté d'alerter, tout en étant conscientes et conscients, hein, des limites de l'exercice, parce que on n'est que la Causerie. Hein, voilà.
Ah bon ?
Mais je dois bien avouer que j'aurais aimé ne pas avoir à écrire ce billet ce soir, parce que oui, c'est pas agréable, franchement. Alors, autant le dire, on a du boulot, hein, tous, hein, toutes et tous, tous les progressistes, tous ceux qui se considère anard de gauche, tout ce que vous voulez. En fait, on a du taf. Déjà, la critique envers nous-mêmes, nos positions, nos postures, nos méthodes, nos priorités en tant que militants progressistes, tout ça, c'est aussi à mettre sur la table. Parce qu'on est passé à côté de gens, il faut être très clair. Pour que les gens ne nous regardent plus ou ne nous comprennent plus, pour qu'aujourd'hui, le réservoir de voix de la gauche soit à peine à 34-35%, c'est qu'à un moment donné, on a fait quelque chose qui marche pas. Donc on va peut-être falloir se poser des questions quand même. Et d'ailleurs, je le redis, si je parle en termes électoraux, c'est qu'on sait que les personnes qui ne voteraient pas feraient pareil. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, pour le dire autrement, la gauche aujourd'hui, c'est 35% des habitants en France. Donc c'est ça le problème. C'est comment en fait on va aller remonter cette proportion-là. Et du boulot aussi pour aider au changement d'avis et ramener une immense majorité vers les idées plus émancipatrices et libératrices. Mettre à l'amende l'extrême droite dans les esprits, faire en sorte que ces idées soient de nouveau marginalisées et ridiculisées. Voilà, parce que c'est une période quand même, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Remonter en arrière, c'était pas cool d'être d'extrême droite et de soutenir oui. Bardella. Hein.
C'était même plutôt. Ils s'affichent fièrement, quoi.
C'est ça, c'est que voilà. Bien entendu, nous avons contre nous une majorité de médias aux mains de capitalistes de droite et d'extrême droite. C'est une réalité, dont un des plus puissants est Bolloré. Et Jean-Yves avait fait une excellente chronique sur Bolloré. J'ai oublié de noter dans quelle causerie, pardon.
C'est pas grave, donc, voilà. Je t'excuse.
Ne pensons pas que dans le passé, cela était tant différent qu'aujourd'hui. Pour les partis de gauche et les ANAS. La presse, elle a été, et d'ailleurs pour les syndicalistes aussi, la presse, elle a toujours été détenue majoritairement par la bourgeoisie en France, c'est pas nouveau, et elle a toujours cherché à servir ses intérêts. Ses intérêts de ceux qui ont la presse. Voilà. Même si, ça, et on le redit, ça n'est pas une opprobre contre les journalistes, parce qu'on sait qu'il y a des très bons journalistes qui font très bien leur travail. Mais il y a aussi une réalité aussi dans l'orientation qui est donnée par les patrons de presse.
Il y a plein de salariés qui sont bien.
Oui, c'est ça.
Juste qu'ils
ne
sont pas à la tête d'une entreprise, en fait.
On est bien d'accord.
On est des exécutants.
Donc, c'est de liens et de contacts humains dont nous avons besoin, mais aussi de présence sur les réseaux sociaux et les réseaux en général, de moments d'échange et de prise de tête parfois, parce qu'il va falloir aussi accepter que, parfois, il faut s'engueuler, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. C'est à ce prix, hein, que nous relèverons, car un vote, ça ne suffira pas. On va arrêter de se mentir. Je reviens à ce que je disais au début. Hein. Une idée, ça met des années à sortir de la tête des gens. Et s'arrêter au vote serait une erreur monumentale. Je fais une petite incise que je n'avais pas prévue, mais c'est parce qu'en fait, je viens de lire quelque chose qui m'y a fait penser. Il y a un excellent documentaire sur le nazisme et après, c'est le titre du documentaire. Ça a été fait par un sociologue allemand d'origine juive, dont les parents ont été exterminés dans les camps de concentration et d'extermination, pardon, et qui en fait a fait un documentaire sur avec ses voisins, parce qu'il est retourné vivre en Allemagne, pour savoir comment il s'était dénazifié. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et qu'il y a un de ses voisins qui lui dit, tu sais, encore aujourd'hui, il y a des relents qui reviennent. Même si le voisin se corrige, vous voyez ce que je veux dire. Mais de tout ce qu'il a vécu enfant, tout ça, machin et tout, bah, ça laisse des traces. Donc voilà, c'est un peu intéressant de voir
Mais c'est
aussi
du conditionnement. Hein.
Bah, c'est ça.
Et on ne se déconditionne pas.
Pas aussi facilement
en deux secondes.
C'est ça.
La déconstruction est plus longue que juste lire trois livres révolutionnaires. Quoi.
Ouais, ou deux tracts bien écrits. Quoi.
Voilà.
Le 7 juillet au soir, nous aurons donc soit un programme mitterrandien, sauce 1980, remis au goût du jour 2024, soit un saut dans la haine et le repli. Voilà. Dans tous les cas, nous devrons lutter et ne pas baisser notre garde, hein, même si c'est le front populaire 2.0, hein, même s'il sera toujours plus facile, pour être très clair, de lutter contre un État tenu par des sociodémocrates que par des nervis d'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc ne perdons pas l'espoir de lendemain meilleur, même si le présent est à la grisaille, et pour ma part, en partie, je l'avoue, dans la peur.
Ah bah c'est contre l'extrême droite toque à la porte du pouvoir, c'est jamais rassurant et je crois que personne qui se dit à minima progressiste, révolutionnaire, libertaire, anard, ne peut être rassuré par la période qu'on vit. Enfin vraiment, je pense que là il y a tous les signaux qui sont rouges, on sait bien, et à Lyon c'est quand même un des gros bastions de l'extrême droite, on sait qu'ils ont pu faire quelques apparitions de force, c'est-à-dire début de la soirée, même sur les pans de la Croix-Rousse, ils sont descendus à une cinquantaine de petits nervis fascistes et les gens étaient en terrasse. Et enfin, voilà,
c'est aussi installé un climat.
C'est aussi, oui, évidemment. Et c'est aussi ce que je voudrais rappeler, alors peut-être qu'on n'a aucun électeur, électrice qui serait tenté par la haine, mais c'est que l'arrière-cour de ceux qui se sont soi-disant. Comment ils disent ?
Normalisé,
dédiabolisé. Alors déjà, le diable et le bien et le mal, enfin, c'est quand même très religieux. Mais bref, en fait, l'arrière-cour, c'est la haine. L'arrière-cour, c'est la violence. L'arrière-cour, ce sera des ratonnades. L'arrière-cour, ce sera des chasses au PD. L'arrière-cour, ce sera tout ça, en fait. Croire que le RN ressemble à la vitrine que veulent nous vendre, bah, le Golden Boy, effectivement, t'as bien raison.
Ah, ben je trouve que moi, c'est ça.
C'est exactement ça. Le TikToker Bardella qui fait de la muscu, qui soi-disant parle des droits des femmes, alors qu'on le sait, là aussi, c'est démontré. Le RN a voté contre toutes les choses qui pouvait aller dans le sens
la liberté,
la liberté, hein, que ça soit au sujet femmes. De l'avortement en Pologne, etc. On le sait en fait. Je veux dire, ce ne sont pas des progressistes.
Mais de la même façon, les gens oublient, parce que moi j'entends beaucoup d'interviews où les gens disent oui, mais regardez, mes salaires n'augmentent pas, blablabla. En fait, les gens oublient que le Rassemblement National a voté contre toutes les mesures sociales qui auraient permis d'augmenter les salaires. Toutes. Depuis qu'il était Front National jusqu'à maintenant, quoi.
Donc, je crois que tous les régimes autoritaires sont toujours du côté du capital, du patron.
Clair.
Et en fait, c'est quoi leur première proposition ? C'est de libéraliser le travail, c'est-à-dire de diminuer les cotisations sociales, enfin, etc. Donc, je veux dire,
limiter le rôle des syndicats.
Et bien, évidemment.
Ça, il l'a pas caché. Hein.
Ça, le RN, les NE, c'est toujours pareil. Hein. Ils voudraient surtout pas qu'on défende nos droits. Donc, c'est juste, n'oubliez pas ça. Enfin, mais après, on parle sûrement dans le vide parce qu'ils ont sûrement autre chose à foutre, les électeurs RN.
C'est bien aussi que si on a des auditrices, auditeurs qui ne savent pas quoi donner, c'est aussi ça aussi qu'on essaye de passer. Quoi. Et il y a un truc aussi que moi je voulais, parce que j'y ai pensé tout à l'heure quand on mangeait, parce qu'on a mangé tous ensemble, ça m'est revenu. Il y a deux personnes en France aujourd'hui qui parlent de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est Jordan Bardella et Laurent Wauquiez. Ils ne sont que deux. Voilà. Et
heureusement que Wauquiez fait partie de ceux qui voulaient pas faire la campagne avec le RN.
Lui veut pas faire d'alliance. Mais il se voit bien président avec un premier ministre RN, après. Ils ont l'air d'être assez d'accord. Non, mais c'est pour dire, pourquoi je parle de ça? Parce que alors, moi, je vais vous dire franchement, hein, de mon point de vue politique personnel, ça reste que des cautères sur, enfin, c'est un petit sparadrap sur une plaie, hein, la CEDH. Mais c'est quand même une symbolique très forte. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été créée. Pourquoi elle a été créée? Justement pour éviter que de nouveaux mouvements proto-fascistes, fascistes, racistes, xénophobes, existent. En fait, l'idée de la CEDH, c'est garantir des droits humains à l'ensemble des pays qui adhèrent à la CEDH. Mmh. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est de cette cour, c'est de dire, voilà, on a un socle minimum, qui est vraiment minimum, mais qui existe, de droits humains qu'on ne peut pas enlever aux humains. Voilà, pour être très clair, je le fais un peu bateau, mais c'est ça, la CEDH. Voilà. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un vous dit, en souriant, On sortira de la CEDH. En fait, il vous dit tout simplement qu'il ne veut plus s'adosser sur la Déclaration internationale des droits de l'homme, qu'il ne veut plus s'adosser sur la Déclaration internationale des droits de l'enfant, qu'il ne veut plus s'adosser sur la Déclaration internationale d'Istanbul contre les violences faites aux femmes, parce que tout ça, c'est garanti par la CEDH. Donc en fait, c'est pas rien quand quelqu'un vous dit ça. C'est qu'en gros, il est en train de vous dire tout ce que vous aviez un peu grappillé en droit et de façon à ce que ça se maintienne, je vais renlever tout ça. Et en fait, ça a l'air comme ça anodin, mais ça ne l'est pas. Et s'il y a un argument d'ailleurs que vous pouvez donner, c'est ça. C'est de dire, mais vous savez, quand il vous dit ça, ça veut dire qu'en gros, tout ce en quoi même quelqu'un, un électeur, peut croire, ben en fait, ça n'existera plus du tout. Parce qu'en fait, il n'y aura plus de garde-fou. Et quand il n'y a plus de garde-fou, ben on fait ce qu'on veut, par principe.
Ouais.
Voilà.
Et qu'en même temps, enfin, j'ai vu quelques témoignages de personnes qui étaient votants et votantes RN. En fait, il y en a quand même un paquet qui disait oui, mais parce que c'est ce que je vois à la télé, quoi.
Mais
et en fait, c'est incroyable, en fait. C'est
Bolloré, quoi.
Oui, oui, enfin, effectivement, en fait, c'est
CNews, première chaîne d'information en France.
Hein. Ben ouais, en fait, c'est de l'information qui tourne en boucle, ouais, qui fait peur, c'est anxiogène. Et évidemment, quand on vit avec une peur 24/24, ben on essaie de trouver le plus autoritaire qui va nous rassurer dans nos petites peurs. Sauf qu'en fait, c'est pas le réel, quoi. C'est-à-dire que les chaînes d'info, elles emmagasinent à vous faire peur, elles emmagasinent à instaurer ce climat, et puis ça leur permet de tenir l'antenne. Hein. Enfin, je rappelle que quand j'avais parlé de Bolloré, etc., ils ont quand même fait 3 jours sur l'affiche des Jeux Olympiques parce qu'il n'y aurait eu pas de drapeau et qu'on aurait enlevé la croix. Enfin, je veux dire, ils sont vraiment, c'est des trucs qui tournent en boucle avec un côté, même pas café du commerce, parce que café du commerce, des fois, on peut avoir des discussions sympas, quoi. Mais là, c'est vraiment c'est le grand n'importe quoi.
C'est
quoi.
Un cénacle réactionnaire.
C'est ça.
C'est des gens qui s'auto-alimentent dans la réaction à l'antenne en permanence, quoi.
Enfin bon, sûrement qu'on ne prêche qu'à des convaincus et que c'est peut-être
ouais,
aussi
mais ça nous fait du
désespoir, j'en sais rien.
Non, honnêtement, ça nous fait du bien. On va pas se mentir.
Mais en tout cas, voilà. Ouais. C'est la merde.
Mais voilà. Mais du coup, tout ça pour vous dire c'est ce que ma chronique avait quand même pour vocation d'essayer de qu'on s'interroge tous collectivement. Et pour s'interroger collectivement, mais il suffit pas juste de s'unir pour les urnes. Il faut aussi se parler après et beaucoup.
Parce que c'est ça, autant j'entends bien certains qui disent ouais, on veut pas diviser maintenant, taper sur les points faibles ou les désaccords. Ok, mais en fait, c'est juste, j'aimerais vraiment avoir la garantie que vous le ferez après, quoi.
C'est ça.
Parce qu'il y a quand même des trucs qui puent dans certains coins, et on a déjà pu le dire ici, hein, le protectionnisme, qu'il soit de gauche ou de droite, ça reste du protectionnisme, c'est désigner l'autre qui vit de l'autre côté de la frontière comme un potentiel problème, un voleur. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir mettre vraiment carte sur table, et arrêter de se mentir, quoi. Et que, oui, malheureusement aussi, les réactionnaires sont très forts, sont très riches et sont très organisés. Et ça aussi, c'est pas en minimisant ou en tournant au ridicule nos adversaires, voire nos ennemis politiques, qu'en fait, on va avancer. Je ne pense pas. Il faut qu'on amène des arguments, quoi. Mais voilà. On passe à la musique ?
Oui, une musique joyeuse.
Ouais. Songe condamnable.
la table et sur le bar pour la soirée. Ils connaissent tous les mots qu'il faut, mais ne les diront jamais. Quand charmés, ils tombent de peau. Ils offrent du silence en bouquet. Ils ont lâché la rancœur. Leur douceur ne vient pas du joli, mais de béance à l'intérieur, qui ont quand même choisi la vie. Se raccrochant à chaque cœur, et puis s'ennuie, et puis s'enfuit.
De retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org et vous venez d'encontrer, non pas du tout, vous venez d'écouter, pardon, Leila Wissoud avec Lettre aux paumés. Voilà, alors c'est un titre qu'on m'a dit, tiens, écoute, c'est bien, et en fait c'est bien, et son album est bien. Voilà, okay. Donc j'avais envie de la faire découvrir ce soir.
Et bien merci pour la découverte.
C'est assez sombre et mélancolique, vous l'aurez compris.
Ah bon? Je trouvais que cet effet fanfare était un petit peu too much.
Mais c'est très beau. Voilà,
oui, oui, oui.
Et puis c'est quelqu'un qui chante les marges. C'est rare les gens qui. C'est de plus en plus rare les gens qui chantent les marges. Et je trouve que c'est chouette quand quelqu'un s'empare de ça.
Laissez voilà. Place aux gens de la marge.
Et toi, Jean-Yves, tu voulais nous parler de Pouf.
Voilà. Ouais, c'est pas mal résumé, effectivement. Alors, ce soir, je vous cause d'un livre, hein, du dernier livre de Chloé Delhomme, nommé Fallers, aux éditions Point, et c'est dans la collection Point Féminisme. Alors, quelques mots quand même avant sur l'autrice. Alors, Chloé Delhomme. Alors, je sais pas son nom de naissance, j'ai oublié de le noter, mais elle a changé de nom et de prénom. Alors,
elle a le droit.
Oui. Mais elle est écrivaine, éditrice, réalisatrice, des dizaines de livres, je crois 30 livres au total à son actif, des créations sonores, radiophoniques, scéniques, des performances. Elle est musicienne, chanteuse, enfin, c'est assez ouf, quoi. Moi, je la connaissais pas du tout, et ce que j'ai pu lire à son sujet me donne vraiment envie d'en connaître vachement plus, parce que, enfin, là aussi, il y a quelque chose de... très fort. Elle définit elle-même son entreprise littéraire, je cite, hein, comme une homme politique de révolution du jeu, dont la l'individu, dont la volonté interne serait, je cite encore, de refuser les fables qui saturent le réel, les fictions collectives, familiales, culturelles, religieuses, institutionnelles, sociales, économiques, politiques et médiatiques. Et je trouve que le projet est plutôt pas mal.
Ambitieux en tout cas.
Oui.
Non mais c'est.
Ouais.
C'est
mais bien, oui, il faut viser la lune pour. Alors avant de parler plus longuement du livre, je ne peux résister de partager l'avertissement qui ouvre ce livre. Alors on appelle ça les trigger warning.
Ouais. Hein. Tout à fait.
Alors calmez-vous, messieurs, ça va bien se passer. Le trigger warning est un avertissement au public. Il prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le souvenir d'un traumatisme. Personnellement, je ne suis pas pour, mais il faut tout envisager, tant la situation est actuellement tendue. Certaines, diront que, une femme étant agressée sexuellement ou violée toutes les 7 minutes, ce qui se passe dans cette fiction relève du cathartique. Certains agiteront Freud, tous les petits garçons connaissent, entre guillemets, l'intense angoisse de castration. C'est par égard pour eux que se trace cet encadré. Voilà, je trouvais ça assez rigolo.
Mais ça l'est.
Mais oui.
Parce que de quoi ça parle, du coup ?
Eh bien, justement, tout commence avec Violette, hein, qui erre dans un centre commercial, sac en bandoulière, l'estomac creusé par la faim. Elle a le malheur de passer sa main sous son pull, hein, sur son ventre douloureusement vide, et cela suffit à un importunator, une sorte de couillidé emmerdeur, à l'ennuyer, la suivre, la harceler. Par tous les moyens, elle tente de s'en défaire. Il ne veut pas entendre la fin de non-recevoir de Violette. Le visage de Violette change, son regard s'intensifie. Le harceleur se plie en deux de douleur. Il agonise, les mains sur sa braguette, il se tord, il crie, il a mal à l'entrejambe. Alors Violette, elle sort de son état et elle est rapidement évacuée, hein, par deux inconnus, surnommés Eulalie et Dahlia, qu'elle connaît absolument pas. Hein. Elle l'embarque direct et s'éloigne très rapidement de la ville, et très loin aussi. Violette ne sait pas ce qui l'attend, ce que lui veulent ses femmes. Pendant le long voyage, hein, elle apprend que ce qui lui arrive... Elle comprendra que depuis la dernière agression sexuelle de son beau-père, elle possède un pouvoir, une sorte de super-pouvoir. Comme ses sœurs, en fait, hein, dans la voiture, et celle aussi qu'elle rencontrera au bout de la route, dans le QG, des femmes, dans toute leur diversité, de tout âge. Leur point commun, elles ont toutes le même super-pouvoir. Et elles ont donc toutes été victimes d'agressions sexuelles, de viols. Mais alors on peut se dire, mais c'est quoi ce super pouvoir, hein?
On peut un peu deviner.
Et que faire de ce super pouvoir d'ailleurs aussi? Parce que c'est bien beau d'avoir un super pouvoir, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on gère, etc. Alors Violette, hein, elle aime pas du tout le statut de victime. D'ailleurs on peut se demander si elle l'accepte vraiment, hein. C'est aussi une thématique qu'on a déjà pu aborder ici. Elle aime pas non plus la colère et ni la loi du talion, hein. Et elle est pas non plus du genre à faire vraiment confiance, hein. On comprendra pourquoi. Pas plus à sa famille qu'à son ancienne meilleure amie. Et pas plus à ce groupe de femmes, hein. En tout cas au début. Et à l'arrivée au QG, on lui dira ces mots: tu es une falleur, comme nous toutes ici. Nous sommes les fallers. Nous avons la capacité de faire imploser les phallus. Ouais, c'est ça leur super pouvoir. Alors un don, hein, qui surgit pas forcément à la première agression. Parfois c'est après des dizaines d'années de violence que le don surgit. Et ce qui explique aussi que vous avez vraiment un groupe de femmes, ça va... Bah, je crois que Violette, de mémoire, elle est la plus jeune, elle a 17 ans. Et la plus ancienne, je crois qu'elle a 70 ans. Donc c'est aussi hyper intéressant justement ce côté transgénérationnel, et que justement aussi libération transgénérationnelle.
Et ça permet sûrement à l'autrice aussi de confronter les courants féministes à travers les générations, non? Je n'ai pas lu, hein, je pose
non,
la question.
Non, pas tant que ça. Okay, là, okay. On est vraiment sur... la mission
non,
des Fallers.
Je tentais un truc, je ne l'ai pas lu.
et donc on lui explique, hein, je cite le bouquin, hein, ce don est une réponse. Une réponse à une vraie question, une question sociétale qui rend tout le monde aphone. Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer? Et ouais, parce que c'est ça quand même, l'objectif. Alors la vie, hein, collective, hein, bah, elle sera faite de discussions sur ce monde, hein, cette société qui laisse la majorité des agresseurs, des violeurs impunis. Il y a aussi des ateliers, du partage, des préparations d'actions, de l'apprentissage aussi, hein, pour gérer ce super pouvoir. Parce que bon, on peut pas faire péter le phallus de tout le monde comme ça tout de suite, sinon on risque d'être trop vite repéré. Alors elles parleront aussi, hein, de l'après MeToo, de cette peur qui a peut-être quitté le camp des victimes. Mais les prédateurs, eux, n'ont toujours pas peur, en fait. Hein? Parce que bah, l'immunité les protège toujours, la justice, les flics, la société les protègent toujours, en fait. Et ça, il n'y a qu'à ouvrir quelques journaux et on s'en rend bien compte, en fait, hein, que l'impunité est quand même majoritaire. Et elles causeront aussi, hein, culture du viol et pop culture, avec des bouts de réel dedans. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est autant l'histoire est complètement barrée, enfin, parce que bon, jusque-là, je crois que ça n'existe pas.
Où on n'est pas au courant.
Et qu'en même temps, dedans, c'est justement, je trouve que c'est ça le truc qui est vraiment intéressant, c'est entrecoupé, bah, de faits contemporains, enfin, de notre société réelle, quoi. Et justement, là, par exemple, sur le tour de la culture du viol et de la pop culture, il y a des extraits de la série Maggie. Alors les plus jeunes d'entre nous ne connaîtront pas cette série.
Elle voit souvent rouge avec Elsa Bouge, Margie Soleil.
Ouais, mais là tu parles vraiment.
C'était pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas que c'est une série des années 80.
Ouais, c'est voilà. Exactement ça en fait. Et qui rappellera hein, dans quel monde, balayant un viol d'une blague, par une blague, bah, les plus anciens et les plus anciennes d'entre nous, d'entre elles aussi, dans le groupe de femmes, et ben dans lequel on a pu grandir, elles ont pu grandir en fait. C'est aussi en fait l'idée, c'est que le viol, c'est pas un fait individuel en fait, c'est un fait social, sociétal en fait,
politique,
et que donc oui, ça transpire de tous les côtés quoi. Alors elles causeront aussi histoire du patriarcat, histoire des féminismes, c'est intéressant aussi, de badass poetry. J'ai découvert plein de trucs. Et de tant d'autres choses. Enfin, vraiment, c'est hyper riche. Et aussi, le groupe de femmes développe des activités hein, qui servent de couverture pour mieux approcher les agresseurs, les violeurs. Genre dans les enterrements de vie de garçons, les soirées étudiantes. Enfin, vous voyez, tout ça, là. Et ben voilà, c'est ça saigne. Enfin, bref. Purple Bubble, l'entreprise hein, de spectacle vivant, permet d'organiser tout ça. Hein. Ni vu, ni connu. Ou presque. Ah ouais.
Ils auraient dû le savoir, Purple Bubble. Les bulles violettes.
Ah oui. Mais, parce que face à un monde qui change, hein, qui tente de changer, les phallocrates, ils comptent pas déposer les armes. Hein.
C'est qu'ils s'accrochent.
Oui, c'est qu'ils s'accrochent, on peut le remarquer tous les jours aussi. Et c'est à cela que sert le club des Virilitas. Ça vous rappellera club de défenseurs de la virilité. Leur devise, attention, je cite, hein, « Parce que nous sommes plus forts, notre règne est sans fin. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. » Et là, on peut se dire, tiens, ça, c'est ridicule quand même.
Oh, pas tant que ça, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui.
Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Alors, oui, c'est ridicule, mais c'est ridicule autant qu'un Zemmour et de sa peur de la féminisation de la société.
Ou tous les masculinistes que tu peux voir sur les réseaux,
etc.
Qui ont des phrases qui sont exactement celles-là.
Ah mais oui. Non, mais
ils vont pas chercher plus loin. Hein.
Je veux dire, c'est une fiction, mais fortement inspirée du réel. Hein.
Moi, j'avais vu une vidéo où un mec expliquait que. J'aime trop ça, c'est tellement ridicule. Que les hommes étaient forcément au-dessus des femmes. La preuve, dans la grammaire, c'est masculin qui l'emporte.
Non, mais...
Et moi, j'ai dit, le gars, il prend une convention, qui est une convention qui a été inventée par des hommes, en l'occurrence, pour un fait scientifique. J'ai trouvé ça ridicule. Sauf qu'il y a des gens qui y croient.
Mais
c'est là que ça m'inquiète.
Tu vois, c'est ce que je me notais, c'est que oui, c'est ridicule. Et pourtant, en fait, ça n'empêche pas hein, des phallocrates d'y croire. C'est peut-être
c'est ça le problème.
Et donc, ce groupe-là de Virilitas a reçu des images de quelques explosions de phallus. Et il compte bien barrer la route à ce groupuscule de castratrices que sont les Fallers à leurs yeux. Hein. Mais les Fallers n'ont pas dit leur dernier mot et n'ont pas fini d'agir. Et quelque chose me dit que les explosions de phallus ne sont pas terminées. Mais ça, je vous laisse découvrir les 144 pages du bouquin et vous allez, j'espère, apprécier. Donc ce livre, alors c'est clairement un défouloir absolument génial. Hein, l'écriture, elle est super bonne, elle est rythmée, drôle, c'est gore aussi. Hein. Enfin vraiment, il y a quelques détails où on se... on s'imagine bien. Le truc pouf qui explose. Enfin bref, c'est très cinématographique. Et alors ça peut s'expliquer, c'est parce que le projet initial de Chloé Delhomme, c'était un court-métrage. Mais pour faire un court-métrage, il faut de la thune. Elle n'en a jamais reçu. C'est marrant, hein, parce qu'en fait, faut comprendre aussi, des femmes à poil pour vendre des yaourts, ça passe crème. Par contre...
Pour des yaourts, ça tombe bien. Que ça passe crème. Pardon.
Mais des femmes qui font exploser des phallus dans une fiction... Non, là, c'est vraiment... Non, c'est too much. Et vraiment, elle n'a eu aucun financement, quoi. Et c'est là où je me dis, j'ose espérer que... peut-être, j'en sais rien, il y a peut-être des meufs qui ont un peu de thunes qui vont aller la voir et lui dire, fais-nous ça en court-métrage, parce que vraiment...
Même en film ou en série.
Ah, mais c'est... ça demande encore plus de moyens. Mais déjà, le court-métrage, je pense, ce serait déjà énorme. Et c'est tellement... Mais je l'imagine tellement bien, ce truc. Enfin, bref. Ce que je me disais, c'est que ça démontre bien, là, encore une fois, cette histoire de non-financement, que même si MeToo et autres existent, la route, elle est encore longue. Parce que, finalement, juste pour un court-métrage avec des phallus qui explosent, il n'y a pas de financement. Et c'est ce qu'elle dit, en fait, alors que Chloé Delhomme, elle dit, en fait, dans les films d'horreur ou gore, etc., le nombre de fois où les corps des femmes sont utilisés, etc., elle dit, c'est quand même fou que, à côté de ça, on ne peut pas faire un film de science-fiction, enfin, de fiction, avec des phallus qui explosent. Enfin, il y a vraiment. Et là, encore une fois, ça démontre bien que oui, on n'y est pas encore, même si, selon certains, on a l'égalité, enfin, tout ça.
Non,
tout
mais
ça, quoi.
Alors, on n'y est clairement pas. Puis moi, je peux donner un autre exemple, mais dans la pop culture. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Furiosa, qui est en fait la vie dans la saga Mad Max de Furiosa, hein, qu'on a découvert dans Mad Max Fury Road. Et en fait, c'est sa vie qui est racontée, donc avant Mad Max Fury Road. Et en fait, il n'a pas marché, le film. Beaucoup de gens se sont posés la question de pourquoi. Moi, je l'ai vu, je trouve ça un excellent film. Enfin, je vais même dire, c'est même un des meilleurs de George Miller, à mes yeux. Enfin, il est bien calibré, il est bien fait, c'est beau, c'est super bien fait. Puis d'un coup, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, il met en scène une femme forte.
C'est ça.
Une femme qui refuse, dans un monde post-apocalyptique, de n'être réduite qu'à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un réceptacle à bébé.
C'est ça.
Parce que c'est comme ça qu'ils les décrivent. Ils disent c'est des réceptacles à bébé. C'est même plus des femmes.
Vous voyez, non, c'est des femmes.
Ouais, et en fait, mais ils vont même au-delà. C'est le réceptacle. C'est même plus le ventre. Vous voyez, voilà. Donc en fait, il y a un vrai truc derrière tout ça, c'est les attaques. Parce qu'ils sont organisés, les mascus. Et en fait, après, en regardant ça, moi j'ai lu un excellent article qui a été écrit par un journaliste de première qui expliquait qu'en fait, dès. 6 mois avant la sortie du film, il était déjà descendu sur tous les réseaux sociaux comme étant soi-disant mauvais, machin et tout. Alors personne n'avait vu une image, hein. On était 6 mois avant la sortie du film, personne n'avait vu. Et quand le film est sorti, il y a eu ce qu'on appelle un raid, c'est-à-dire des milliers de gens qui se connectent sur les sites comme Allociné.
Ouais, c'est une action coordonnée. Voilà.
Mais c'est coordonné. Et en fait, pour aller dire le film est mauvais, le machin. Et en fait, tout était faux. 99% des gens n'avaient pas vu le film. C'était juste le but de ne pas permettre à ce film d'exister. Et il y avait eu la même chose avec. J'ai perdu le Titane,
ah oui.
De la réalisatrice dont j'ai perdu le nom, pardon.
Dutrier. Trier, c'était Chute.
Ouais, la chute, oui.
Anatomie d'une chute.
J'ai perdu le titre. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Non, mais voilà, mais Titane, ça avait fait pareil. C'est-à-dire que tout le monde avait dit, ah là, c'est du mauvais cinéma et tout. Alors qu'en fait, c'était un des meilleurs, et je l'ai vu, un des meilleurs films de genre qu'il y a eu cette année-là. Et je veux dire, tout cinéma confondu, voilà. Donc en fait, il y a un vrai problème, en fait, qui se passe, et c'est bien qu'elle le souligne dans le livre. C'est que oui, on a mis tout, mais ils sont toujours organisés pour détruire, et donc elle peut pas faire, elle, son court-métrage. Et on voit qu'il y a tout un tas de choses qui sont arrêtées, bloquées, parce qu'on dit, on va pas mettre une femme, quoi.
Alors je précise, hein, son histoire du court-métrage, c'est vraiment en lisant ses interviews, etc.,
oui.
que je l'ai vu, hein. C'est pas dans le livre.
Non,
là, on est vraiment dans le livre, on est plongé dans.
J'avais bien compris
dans les Fallers, quoi.
Et je voulais juste dire quand même que David Cronenberg, si tu nous écoutes, ce qui est peu probable, quand des gens prennent Scanners, qui était un de tes meilleurs films, pour. Oui, parce que je le tutoie, moi je le connais bien, David. Qui est un des meilleurs films pour faire un titre. Fallers, Scanners, voilà, la capacité de faire exploser des cerveaux, des têtes d'un côté et des phallus de l'autre, c'est que ça veut dire que la pop culture, elle est en train d'évoluer, c'est cool, mais t'as de la thune, David. Voilà. Bon, je tente le truc, hein, on verra bien.
Mais c'est clairement.
Non, mais voilà, il y a
cette
vrai,
affiliation ouais. est clairement assumée, autant par l'autrice que par les personnages.
Mais je trouve ça génial. Enfin,
qui ont trouvé ce nom pour leur groupe.
Fallers, Scanners, c'est fabuleux.
Et en fait, ce livre, il me faisait aussi penser. Pardon, je reviens un petit peu au livre, j'ai vite fini. Mais ce livre, il me faisait aussi penser en fait au groupe d'autodéfense de femmes dont j'ai pu lire l'existence, par exemple en Inde ou au Mexique, etc., qui en fait en ont. Marre en fait de les voir de voir leur sœur mourir ou violer ou agresser et qui en fait vu l'inaction de la société se sont mis en action quoi.
C'est Sari Rose en Inde notamment.
Oui. Ouais. Et donc voilà, alors évidemment, elles faisaient pas exploser leurs tubes, hein, mais elles contraient la violence patriarcale. Et encore une fois, là aussi on revient sur cette notion de violence, etc. En fait, c'est ce qui est dit dans le bouquin par les Fallers. C'est qu'elles n'ont pas, elles ne ciblent pas les hommes en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ciblés, ce sont des chasseurs, ce sont des prédateurs et ce sont des agresseurs et des violeurs en fait. C'est pas une violence gratuite de vengeance pure et dure. C'est rien, y a rien d'aveugle. C'est que des charges qui sont totalement justifiées, on va dire quoi. Donc voilà, alors. Alors évidemment, hein, ça ne changera pas la société, hein, ça ne changera pas les chasseurs, les prédateurs, mais ça inverse violemment la charge, la peur, et rien que ça, bordel, bah, ça fait un bien fou. Enfin vraiment, après je serais curieux d'avoir justement des retours de vous, de femmes et autres, pour voir un peu si je suis le seul à être complètement emballé, mais je trouve que c'est juste, et elle le dit bien au début, c'est cathartique. Et oui, en fait, ça fait un bien fou.
Ça fait du bien, les livres, oui. ou les films cathartiques. C'est hyper utile à la société.
C'est ça.
Ça permet un peu de se libérer des fois de tensions un peu fortes.
C'est ça. Alors courez-y, hein, lisez-le, faites-le lire. Même si le plaisir ne durera que 140 pages, ne boudons pas ce plaisir. Parce que quand même, ça fait du bien. Donc je rappelle, hein, c'est Fallers de Chloé Delhomme. Il est sorti au mois d'avril, je crois. Et c'est aux éditions Point. Voilà. Et alors... Pardon, tu voulais dire un truc ?
Non, mais okay. Vas-y.
Allez, vu que alors Claire Delhomme, c'est une artiste assez complète, hein, vous l'aurez compris quand je vous ai un peu détaillé son parcours et tout ça. Et ben, elle nous invite à la fin du livre avec un petit QR code à flasher, et en fait, on a une playlist.
La bande son du livre.
La bande son. Mais et c'est vraiment, enfin, je trouve ça rajoute tellement encore de trucs. Et en fait, c'est quatre titres en tout cas. Alors, c'est tout un album, mais sur cet album, il y a quatre titres. Qu'on va lire, qu'on va voir, qu'on va savoir jouer par le groupe de Violette et toutes les potes à côté. Hein. Alors le groupe, il s'appelle Amiante et Craven A. Et donc, en fait, cette playlist, elle est issue de l'album de Chloé Delhomme qui s'appelle Sentiments Négatifs. Et il y a donc quatre titres qui sont joués par, en tout cas dans le film, dans le livre Fallers, au cours de quelques soirées assez sympas, dont les Alpha Awards. Je vous en dis pas plus.
Moi, je veux juste dire un truc, parce que je sais plus qui a dit ça, alors je veux pas l'attribuer à la mauvaise personne. Dans ma tête, c'est Virginie Despentes, mais peut-être c'est pas elle, qui disait, en fait, il y a un truc marrant, c'est que vous parlez à des révolutionnaires mecs, en général, ils vont vous dire, il n'y a pas de problème avec la violence contre le capital, contre machin, contre ceci, contre cela. Et dès qu'en fait, des meufs ou des nanas vont s'organiser et vont commettre des actes un peu violents, propulser quelqu'un, un truc, tout de suite, ça va être un problème. On va dire, ah, tu peux pas utiliser les armes de l'ennemi. C'est un peu étrange. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, on voit que là aussi, dans nos milieux, il y a beaucoup de choses à revoir, quoi. Parce que voilà, et je crois que c'est dépend, je veux pas, voilà, peut-être c'est pas elle, mais en tout cas voilà, il y a une réflexion, réflexion là-dessus que je trouve et que j'avais trouvé très intéressante, parce qu'effectivement dès que c'est des femmes qui s'organisent, ah là là, mais non, mais pourquoi la violence c'est mal et tout. Alors par contre, vous parlez à n'importe quel militant révolutionnaire, il va vous dire, ah, faut tout péter. Ce qui est une forme de violence, je le rappelle.
Donc c'est Fallers aux éditions Point, avec donc de Chloé Delhomme, avec Fallers. Et ben justement, si on n'a plus rien à rajouter, je vous propose de s'écouter justement un de ces quatre titres que on retrouve dans le livre. Allez, à tout de suite.
Jamais putain, c'est comme un châtiment. histoire de charge mentale, d'inégalité salariale, de grandes invisibilisées, c'est un truc pour vous rassurer. Il m'a dit le patriarcat, ma petite, ça n'existe pas. Prenons du recul un instant, ici on n'est pas en Iran. Je lui ai rappelé un pouvoir qu'on a depuis la préhistoire. Il en petit et grand garçon, le fantasme de castration.
Évidemment encore à l'écoute de la causerie sur Radio Canut, toujours au 102.2 de la bande FM et sur radiocanut.org et partout ailleurs bien sûr avec plein de moyens de nous écouter. Et on vient donc de s'écouter un titre de Chloé Delhomme et le titre c'est Ouin Ouin Boogie. Voilà un des titres ouais, que ouais. Les Fallers interprètent donc dans le livre éponyme Fallers de Chloé Delhomme. Voilà, je crois que je l'ai assez dit ce soir.
Donc, que t'as beaucoup aimé et qu'il faut lire. Et
oui,
voilà.
Allez-y.
On aura compris.
Oui. Alors, c'est Fab. Ouais. On va se quitter à quelques. Enfin, t'as quelques brèves.
Oui, alors on va directement au vendredi 28 juin, c'est-à-dire vendredi prochain. Il y a la soirée de lancement de La Douille. C'est un festival féministe et queer des savoir-faire techniques. C'est pour se réapproprier les savoirs techniques. Voilà, bah par contre c'est en mixité choisie évidemment, donc je vous invite à aller lire sur le site du festival La Douille si vous rentrez ou pas dans les cases de la mixité choisie, ce qui est bien aussi de se renseigner. Et au programme, il y a des ateliers, des performances, des concerts et des repas. Et la soirée de lancement, c'est à 18h au Rita Plage. Ensuite, ben, parce que vous aurez le choix aussi, le 28, il y a aussi l'histoire de l'abolitionnisme pénal. Rencontre avec Shaim Morris. Hein, qui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Shaim Morris, c'est le co-auteur de Brique par Brique, qui est assez connu pour dire qu'il faut se passer du système des prisons. Et c'est à l'illégalité à 18h30. Voilà, donc compliqué d'être à deux endroits en même temps. Faites un choix. Et sinon, y a aussi à l'illégalité un truc assez sympa qui se passe le dimanche 30 juin de 14h30 à 18h. C'est une grande kermesse de fin d'année. Et parmi les animations, il y a une gratiféria. Et qui tu sais qu'une gratiféria ?
Je ne sais pas.
Ben voilà. Et ben c'est un marché d'échange festif et gratuit. Cool. Vous amenez ce que vous voulez, vous repartez avec ce que vous voulez. Pour faciliter l'organisation, il vous invite à déposer vos objets le vendredi 28 entre 10h et 18h30 au 30 cours Émile Zola, parce que c'est là que se trouve l'illégalité. Et tout sera donc mis en gratiféria à partir du dimanche 14h30. Voilà. Et je le dis, toi, si tu es un brocanteur ou un truc comme ça, tu viens pas prendre gratos quelque chose pour le revendre à prix d'or. Non, tu laisses ça aux gens qui en ont besoin.
C'est ça.
Ce sera mieux. Voilà.
Eh bien, très bien. Ça a fini avec les rendez-vous militants et autres.
Oui.
Ouais. Ok.
Comment on nous joint ?
Mais j'allais y venir, enfin, tu es trop pressé. Alors, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, c'est par mail à lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Évidemment, vous retrouverez cette émission, comme les 524 précédentes, sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous tapez dans votre petit moteur de recherche blog La Causerie Radio Canu, normalement vous tomberez sur nous. Et ben et sinon après on est aussi sur Facebook, alors c'est juste pour partager les podcasts. On remercie d'ailleurs celles et ceux qui peuvent de temps en temps partager nos posts, ou voir très régulièrement. Et aussi sur tous les sites de balado-diffusion, comme qu'ils disent là-bas.
De
podcast. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Nous, on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, en équipe réduite, et en étant très vigilant.
Oui, parce que Clara a posé ses congés,
oui.
Et on lui a accepté.
Ouais. On est des bons patrons quand même.
Voilà. Non, comme c'est une coopérative. Arrête de dire n'importe quoi, c'est une coopérative, on a voté, et on a tous dit d'accord. N'importe quoi. Non, mais en tout cas, tu vas nous manquer.
Oh.
Ben oui.
C'est gentil.
C'est vrai, surtout. Donc voilà.
Oh. J'ai envie de chialer là d'un coup. Non, je me retiens.
T'es pas très crédible.
Le sans-cœur de l'équipe.
C'est pas vrai, je pleure pour n'importe quoi.
Et on va se quitter avec quoi?
En musique.
Ouais, on se quitte en musique avec War Dance, un titre de Tilacine avec 74 musiciens.
Ouais. Musicien, musicienne classique.
Ouais. Oui. Et même qu'il y a des gens qui ont eu la chance samedi d'être à l'amphithéâtre et qui ont vu ça et c'était trop trop bien.
Amphithéâtre à Vienne.
Ouais, et c'était trop trop bien. On vous le dit.
Et voilà. Ben, très bien. Alors
et puis, c'était la dernière fois, donc vous pourrez pas aller le voir.
Voilà. Dommage.
Non, mais je crois qu'il a sorti l'album.
Oui, l'album est sorti.
Là, il y a un enregistrement en tout cas, ouais. Et je crois même que sur peut-être
vidéo.
Culture Box ou des choses comme ça.
Sur Arte Concert.
Ou sur Arte Concert, ouais. Vous avez peut-être même le concert avec les 74 musiciens.
Des extraits, pas tout le concert.
Okay.
C'est volontaire.
En tout cas, kiffez bien. Là, c'est un long morceau de 5 minutes, alors profitez-en bien. Mm. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Marlène pour la visite.
Et bah de rien.
Voilà. On t'a peut-être pas remonté le moral ce soir.
Non.
On promis, la prochaine fois, on fera un truc plus drôle.
On attend que le monde soit meilleur, quoi. Vraiment, on adorerait ça.
Ok, à dans 153 ans. Merci d'être venu.
En tout cas, merci à toutes et tous pour l'écoute. On vous donne rendez-vous dimanche prochain en équipe réduite, comme je l'ai déjà dit. Et puis d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Soyez vigilants et vigilantes dans les 15 jours qui approchent, parce que ça pue la merde, ça pue la mort. Donc faites-y attention. Voilà, des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Ciao.
Ça grince.